RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG vous salue. Bonjour à tous. C'est parti pour 3 heures de discussion, de débat avec vous, bien sûr, au 32-16. Vous avez l'habitude de prendre la parole. Bonjour Olivier.
Salut Alain. Bonjour les grandes gueules. Bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les grandes gueules, à tes côtés, Flora Guevalli, entreprenant la transition écologique. Bonjour Flora.
Bonjour les GG.
Nous sommes avec Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous. Un salut amical à Frédéric, livreur dans la région toulousaine et grand fidèle de notre émission.
Et puis Zora Habitant nous accompagne, intervenante associative auprès des jeunes. Bonjour Zora.
Bonjour à tous et pareil, bonjour à la tribu de Zora, vous êtes maintenant plus de 12 000.
Oh là, bon, on remplit un stade là maintenant. Là.
Non, mais...
Il y a plus de monde dans ta tribu que dans un meeting d'Edouard Philippe.
Fidèles de auditeurs Bruno Retailleau. Des GG. Ouais, c'est ça. Le tacle.
Que se passe-t-il? Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les GG? On va évoquer bien sûr le cas Marine Le Pen. Ces Français qui trouvent que la sécurité sociale leur coûte trop cher et qu'elle est mal gérée. On va vous faire part aussi du cas d'un étudiant. Il m'avait abordé ici à la sortie des locaux. 300 CV envoyés, aucune réponse pour trouver un stage dans la finance. Ces jeunes qui aujourd'hui envoient des CV, veulent trouver des stages dans les boîtes et à qui on ne répond jamais. Ça paraît systématique. Oui. On en discutera. François Ruffin fera son face au GG. On parlera des conducteurs qui jettent les mégots par la fenêtre et ça déclenche des incendies. Comment lutter correctement? Mais d'abord, on va s'intéresser à qui? À Kylian Mbappé et à une sénatrice paraguayenne. Maintenant, le monde du foot connaît Céleste Amaria, sénatrice paraguayenne. C'est elle qui a insulté notre Kylian Mbappé national.
Oui, alors ça va bien au-delà du monde du foot parce que les dirigeants de la planète réagissent, à commencer par Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que Céleste Amaria, qu'on découvre, donc une sénatrice du Paraguay, voilà ce qu'elle écrit sur son compte X à propos de Mbappé et qui vient avec ses petits camarades de battre son équipe. Cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. T'aurais dû lui faire un doigt d'honneur, Orlando Gil, le gardien du Paraguay. Je le fais au Sénat et ne se passe rien. Voilà ce qu'écrit cette sénatrice. Mbappé a immédiatement réagi, également sur ses réseaux sociaux. Madame Céleste Amaria, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Et du coup, Céleste Amaria a re-répondu en expliquant que finalement, elle demandait maintenant des excuses à Mbappé et elle dit qu'elle n'est pas raciste parce qu'elle-même, elle est des origines métisses, etc. L'affaire va très loin puisque tout le monde a réagi. Alors, les instances du football, mais même Emmanuel Macron qui a écrit que Mbappé venait une fois de plus de marquer un but.
Bah, qu'est-ce que vous en dites?
C'est du racisme à l'état pur. Enfin, il n'y a pas d'appel. Je veux dire, c'est immonde de penser comme ça. Enfin, j'ai lu les propos, j'étais sidéré, quoi. On peut critiquer.
Il a bien fait de répondre, le président Macron? Ou pas, finalement?
Ben, c'est quand même l'équipe de France, quoi. C'est pas n'importe qui. C'est pas le club de foot du quartier du coin.
Et c'est le capitaine de l'équipe de France.
En plus. Donc, oui, je pense que là, on n'insulte pas les Français, là, à travers Mbappé de cette manière-là. Enfin, les propos, ils sont violents quand même. On peut critiquer Mbappé sur le foot, sur sa technique, sur l'équipe de France, etc. Mais là, franchement, c'est... Non, moi, je trouve ça abject. Et en plus, je lis son communiqué. Elle dit que c'est Mbappé qui s'est mal comporté et qu'en plus, elle lui demande des excuses. Oh, c'est encore pire, quoi. À aucun moment, elle revient...
Rétracte-toi avec moi. Honore ta citoyenneté. Oui. Présente des excuses, sinon je pourrais entamer des actions légales.
Non, mais je trouve
pour...
que la...
Elle dit pour violence.
Mais non, mais je trouve que la réponse de Mbappé, elle est bien, ouais. Puisqu'il fait la différence entre le peuple paraguayen et les propos de cette sénatrice. Donc...
Ouais. Donc voilà. Emmanuel.
Il faut peut-être relativiser. En France, il y a 368 sénateurs. Donc si l'un d'entre eux dit une énorme bêtise, moi je résumerais la paraguayenne à baragouiner. Et bon, voilà. Faut pas lui donner non plus une importance
pas donner plus d'importance
qu'elle
ça.
N'a pas.
Flora.
Ça veut dire que les députés sont devenus des trolls comme les autres. C'est quand même dingue. Avant, les politiques dans le monde entier, ils avaient un standing dans leurs paroles, une tenue. Et c'était... Il n'y a pas si longtemps, quand un politique prend la parole, il y a toute une équipe qui réfléchit, on écrit un communiqué de presse, on le relit. Je le sais, parce qu'il y a 10-15 ans, je travaillais en politique, et je peux vous dire que la façon dont un politique s'exprimait était très différente. Ça a été métamorphosé avec l'émergence des réseaux sociaux. Et donc, à l'époque, on corrigeait le communiqué de presse 12 fois, on le relisait. Et quand on était d'accord, mais pour un président de la République, mais aussi pour un député ou un sénateur, quand le sénateur ou le député était d'accord, on le balançait. Là, c'est devenu un troll comme un autre, un troll en plus raciste et plein de haine. Donc, c'est une catastrophe. Donc, j'en reviens, vous allez me dire que je raconte tout le temps la même chose, mais j'en reviens toujours au même sujet. Les réseaux sociaux sont en train de détruire la démocratie, la diplomatie, les relations entre les pays. Que le président de la République française ait besoin de rappeler à l'ordre une sénatrice paraguayenne parce que... elle fait des tweets racistes. On est où en fait? Enfin, c'est quand même. On est quand même dans une société en fait, vraiment médiocre.
Le réseau social, c'est un véhicule, Flora.
Mais oui.
Donc, si tu veux, je pense que même s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, elle aurait écrit une lettre ou elle aurait signé une tribune dans un journal.
Mais Emmanuel Macron n'aurait pas réagi.
Cette sénatrice, tu vois.
Emmanuel Macron n'aurait pas réagi.
Oui, mais elle n'aurait pas signé une tribune. Elle aurait
sans Twitter, il ne réagit pas, Emmanuel Macron.
Je ne crois pas qu'elle aurait signé une tribune raciste dans un journal. Je crois justement qu'elle était toute seule sur son téléphone.
Après, l'histoire raconte que quand même le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, l'homophobie. Non seulement sont universels, mais en plus ont quand même fait de la barbarie partout sans réseaux sociaux.
Parce que ce qu'il
n'a pas eu besoin de réseaux sociaux pour les pogroms, pour la Shoah et pour le reste.
Céleste Amaria, dans une autre publication toujours sur X, elle écrit un Camerounais en parlant de Mbappé.
Mais oui.
Un Camerounais issu de la colonisation s'efforçant désespérément de passer pour un Français rancunier, nouveau riche. Arrogant et laid.
Non, elle est folle.
C'est une démarche de polémiste ridicule, même si elle s'est excusée, il faut le souligner, parce qu'elle s'est rendue compte de l'erreur inexcusable. Ceci étant, on pourrait aussi nous dire que le Paraguay est une république semi-bananière. On peut se lancer dans des polémiques comme ça. Le sport mérite mieux et la Coupe du Monde doit rester une confrontation uniquement sportive, pas politique et pas ethnique.
Dans ce cas-là, il ne faut pas que Donald Trump appelle le président de la FIFA pour faire sauter un carton rouge, par exemple.
C'est possible.
Et il ne faut pas appeler non plus au boycott de joueurs israéliens partout à tout bout de champ.
Il fallait mieux accueillir aussi l'équipe iranienne. Parce
voilà,
que
en plus.
Soit les Iraniens n'avaient pas le droit de venir et ils n'étaient pas, mais s'ils viennent, on peut pas mais les traiter comme les
bien sûr. C'est vrai que le débat qu'il y a derrière, et c'est triste, mais c'est notre époque qui est comme ça, c'est qu'on politise tout, quoi.
Est-ce que cette Coupe du Monde est trop politique?
Ça a toujours été politique, hein. C'est comme les Jeux Olympiques. Oui. Les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, c'est des moments où les États se rencontrent, les nations se rencontrent. Mais ce qui serait génial, c'est qu'on puisse faire du foot, quoi. Et que là, on soit en train de faire un débat sur le sport.
Mais ce qui est nouveau, sans doute, c'est l'accentuation de l'importance de récupération politique pour les dirigeants des pays. Et c'est ce qui explique ces dérives impardonnables.
C'est-à-dire que le dirigeant du pays s'identifie à son équipe nationale
et forme le vœu d'une grosse récupération politique à son profit d'une éventuelle victoire.
Ouais. On a connu ça en France, ça a démarré avec Jacques Chirac en 98. Qu'avant, il n'y avait pas autant de rapports entre le politique et les footballeurs. J'avais vu un très bon documentaire qui expliquait, par exemple, lorsqu'on a organisé l'Euro, le championnat d'Europe de foot chez nous en 84, François Mitterrand est alors président de la République, et il ne va pas au match au départ. Il ne pense pas aller voir les matchs. Et c'est un de ses conseillers qui dit, mais attends, tu devrais, parce que tu comprends, le foot, c'est le sport le plus populaire au monde. En plus, on a une belle génération avec Platini, on peut gagner 7 euros, ce qui a été le cas. Et c'est à ce moment-là que Mitterrand décide d'y aller, il remet la coupe à Platini et autres. Mais avant, il n'y avait pas ce lien, c'est-à-dire pour les présidents,
c'est le début c'était quelque chose d'à part le foot.
S'il y avait eu Twitter à Séville, en Espagne, en 1982, au moment de l'affaire Harald Schumacher, le carton rouge, pas de carton rouge contre Batiston, etc. Alors là, je pense qu'on déclenchait une nouvelle guerre contre l'Allemagne.
C'est pour ça, Flora a raison de dire que les réseaux sociaux ont tout changé. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, qui est en Syrie, s'il n'y a pas Twitter, on ne réagit pas. Il ne va pas faire un communiqué. Là, c'est parce que depuis son hôtel, il a dû se dire, oh là là, il faut vite que je réagisse.
Et par ailleurs, Emmanuel Macron, il se dit qu'il touche une audience différente de quand il fait des annonces très politiques qui n'intéressent pas, par exemple, les jeunes de prime abord. alors peut-être certains jeunes, mais
souvenez-vous,
mais
aussi,
en fait il se dit, en fait aujourd'hui quand on est politique, la question qu'on se pose c'est comment j'imprime l'opinion, comment je dis quelque chose qui est entendu par les gens. Et c'est très dur, parce que vous remarquerez que par exemple sur la course à la présidentielle, tous les candidats en dehors de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, enfin Marine Le Pen, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, ont beaucoup de mal à faire entendre leurs idées. L'autre jour on critiquait Édouard Philippe sur l'intelligence artificielle, et on avait ici en plateau un député d'Édouard Philippe qui nous disait mais arrêtez, il vient de faire une conférence de presse de 1h30 pour dévoiler tout son programme, et on n'était même pas au courant, alors que c'est quand même un peu notre travail de regarder l'actu avant de venir, nous les GG. Et donc aujourd'hui, non mais juste aujourd'hui, il y a un truc, les pauvres politiques, si Emmanuel Macron il rebondit pas au tweet raciste qui concerne le footballeur, c'est un sujet à buzz maximal, on l'entend pas en fait. Donc déjà
et sur le fond, c'est devenu impossible de faire rêver les Français parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses.
D'accord.
Oui. Et alors ?
Donc on peut plus proposer de choses auparavant.
Oui. Donc on fait de l'écume.
En les réalisant, toute proposition est onéreuse et il n'y a plus d'argent dans les caisses. 2027 est une élection casse-tête.
Donc tu fais du buzz.
Ouais, voilà. tu réagis à l'écume des choses, en fait, c'est ça. Oui, mais quand la sénatrice prend la parole, elle insulte mondialement un joueur de l'équipe de France.
Non, mais de toute façon, pas n'importe lequel, le joueur le plus connu.
Parce que là, on va affronter le Maroc. Ensuite, si on se qualifie, on espère aller jusqu'en finale. Donc tout le monde va être là à commenter le parcours de l'équipe de France. Est-ce que les politiques doivent le commenter aussi? Est-ce qu'ils doivent être des supporters comme les autres, ou pas, tu vois?
Elle a d'autant tapé complètement à côté de la plaque et de manière répréhensible que Mbappé fait une très bonne Coupe du Monde.
Et Emmanuel Macron a déjà dit qu'il irait voir la finale aux États-Unis si la France y était.
Et Donald Trump remettra le trophée.
Oui, alors Donald Trump, en même temps, c'est chez lui, on peut le comprendre, il récupère chez lui. Ouais, mais est-ce que Emmanuel Macron a besoin d'aller voir la finale de la Coupe du Monde? Mais il était parti en Russie aussi, on se souvient de ses photos.
2018, 2022.
À côté de Poutine, bon, voilà, mais
c'est 2022 où il était sur la pelouse.
Comme le dit Flora, ils s'en prennent plein la gueule de matin, midi et soir, les politiques. Les seuls moments où ils tentent de récupérer un moment de joie, d'union nationale, c'est à ce moment-là.
Oui, mais
eux-mêmes n'en créent plus des moments d'union nationale.
Non, mais après, ça peut avoir du sens et de la légèreté si le pays il est pas dans cet état.
Souviens-toi,
c'est ça le problème, oui, c'est que le pays est dans un état, c'est-à-dire qu'on fait la liste et chaque citoyen, même ceux qui sont pas politisés ni initiés, sont capables en 5 minutes de faire la liste de 10 choses qu'ils aimeraient voir s'arranger. La légèreté n'est plus supportable, elle est plus acceptable. On n'est plus dans un moment où tout va bien, il y a une communauté nationale, il y a de la cohésion. Là, c'est la foire aux candidats, la foire au buzz, la foire aux petites phrases. La phrase à la visibilité, la phrase à exister, la phrase à répondre, la phrase à la réaction. Et en fait, les Français ont envie d'un travail de fond. Et ce qui est dommage, c'est que ceux qui font un travail de fond et qui racontent des choses de fond, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer, comme dit Flora, une heure et demie à raconter une idée, un programme avec lequel tu peux ne pas être d'accord. Eh ben, il n'y a plus personne qui prend le temps, qui dit « je n'aime pas ce qu'il dit parce que dans ce programme-là… »
Il y a beaucoup de fond.
Il y a du fond à droite, à gauche, pas spécialement chez les politiques. Intellectuellement, il y a des gens brillants.
Les partis travaillent
Mais regardez, on va prendre un exemple. Je vais vous donner un exemple.
Il n'y a plus d'argent, on ne peut pas rien proposer.
Pas au niveau politique. Il n'y a pas que le politique dans le niveau intellectuel. Vous regardez, par exemple, un média… Pour ne pas le citer, les électrons libres. Ok, on peut penser ce qu'on veut, mais ils font un travail de fond, scientifique.
Ah oui, mais ça c'est les médias. Responsables politiques.
Non, mais nous.
Pardon, mais il y avait le meeting. Excusez-moi de revenir, c'est une obsession. Il y avait le meeting avant-hier d'Edouard Philippe. Ça a duré combien de temps? Est-ce que vous êtes capable de me citer
l'idée
neuve sortie du meeting d'Edouard Philippe?
Une heure et quart.
Je vous mets au défi. Rien.
Et il n'a même pas cité celui qui l'a fait roi, à savoir Emmanuel Macron. Quelle ingratitude!
Et surtout, je vais vous dire un truc, c'est triste parce qu'un meeting.
Qui on a Pierre qui veut réagir. Pierre, il est en ébullition, Pierre. Bonjour.
Oui, salut l'équipe, salut les grandes gueules.
Salut Pierre, paysagiste dans l'Hérault. Pourquoi vous êtes aussi remonté, Pierre, aujourd'hui?
J'ai le cœur républicain qui saigne. J'ai le cœur bleu blanc rouge. Là, non, c'est un scandale. C'est un véritable scandale.
La sénatrice
Oui, c'est limite du nazisme. Je suis désolé, on n'est pas loin du nazisme, franchement. Et comme je disais au standard, je dis cette femme, sa fille, toute sa famille, interdit de France. Plus un pied en France.
Ah, carrément.
Oui, parce que Courchevel, là, Saint-Tropez,
Vous croyez qu'elle parle
qu'il y a oui, c'est ce qu'elle a écrit.
Ah bon, elle est
Courchevel. Elle a un salaire moyen au Paraguay et que cette femme, elle va s'introper à Courchevel quand même. Pour les Paraguayens, déjà, je trouvais ça scandaleux, déjà. Premièrement. Et deuxièmement, ce qu'elle a dit en France, c'est intolérable. Vraiment. Et moi, je soutiens entièrement Mbappé, il a bien raison. Il a bien raison. Et qu'on les foute dehors, ces gens. Qui viennent vraiment plus en France, même en Europe. Hein. Savoir est-ce qu'ils foutent pas un pied en Espagne ou en partie de l'Europe, mais vraiment dehors. Ces gens-là, vraiment, c'est écœurant. Le Paraguay, ça représente pas le peuple paraguayen, je suis sûr.
Qui déjà est dans elle rend pas service à son pays, c'est sûr.
Et elle se permet de parler de Courchevel, de Saint-Tropez, mais qu'on la bannisse de France et qu'elle soit bannie du Paraguay aussi. Qu'il la foute dehors, hein. Franchement, des politiques comme
là,
ça.
Là, elle est élue.
On n'est pas obligé de l'accueillir chez nous. Je suis assez d'accord avec lui. Moi, je trouve qu'on devrait être plus ferme avec les gens qui insultent notre pays, qui insultent nos représentants.
On devrait pouvoir maîtriser notre nationalité avec beaucoup plus de force. Quand on voit qu'Hollande n'a même pas pu déchoir de leur nationalité étrangère des terroristes, il a complètement raison, Pierre. Ça devrait être automatique. Sur un coup de bouton, plus de nationalité, on ne peut plus venir.
Si elle vient à l'aéroport, hop, on la fout dehors.
Donc, en fait, il faut mettre l'affiche de cette dame à tous les aéroports.
Les fiches wanted.
Ils aiment Courchevel, ils aiment Saint-Tropez, ils aiment tout ça. Je pense que ça va calmer les gens.
C'est comme les gens comme les dirigeants étrangers qui insultent la France et qui viennent se faire soigner dans les hôpitaux français.
Parce que, à nos frais, souvent.
Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Pierre. Remontez comme une pendule. Salut, Pierre. À bientôt pour d'autres discussions. Alors, est-ce qu'on est tous derrière Mbappé face à la sénatrice paraguayenne? Vous mettez. C'est un oui, mais.
Il y a 36,5 qui y sont pas, punaise.
Oui, à 64%. Allez, dans un instant, on va regarder le dossier Marine Le Pen. C'est le jour J. On va voir comment la justice décide du sort de celle qui est encore aujourd'hui la favorite de l'élection présidentielle. Restez avec les GG, avec les grandes gueules, et vous venez commenter ça au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Avant de reprendre nos discussions, je vous rappelle que vous avez des vacances à gagner. Les vacances Bellambra, tout au long de la semaine, vous remportez vos vacances à la mer, à la montagne, à la campagne. C'est un séjour de 2000 euros dans les clubs et hôtels. C'est un séjour avec les activités, avec les repas. Au Bellambra s'occupe de vos enfants. C'est le tout compris premium. Pour gagner, vous envoyez vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. La campagne, la montagne ou la mer, c'est pour vous. Tirage au sort du gagnant ou de la gagnante tout à l'heure à 11h20. Peut-être que la justice décidera de l'envoyer partiellement en vacances, Marine Le Pen. En tous les cas, c'est la décision, l'arrêt de la cour d'appel que l'on attend aujourd'hui pour la présidentielle 2027.
Oui, c'est quand même étrange que ce soit des magistrats qui vont décider cet après-midi de l'avenir de la politique française, puisque Marine Le Pen, a encore tous les sondages, est la favorite de cette élection présidentielle. Et donc, c'est la cour d'appel de Paris qui va dire si Marine Le Pen peut se présenter pour une quatrième fois. Une présidentielle qui ne démarre pas donc sur une bataille d'idées, mais sur un débat juridique. Toute la journée, on va causer sur sur la durée d'inéligibilité de Marine Le Pen, peut-elle oui ou non se présenter, etc. En tout cas, si Marine Le Pen ne peut finalement pas se présenter, ce qui est a priori le scénario le plus probable, elle acceptera cette décision. Il n'y aura a priori pas de manifestation, pas d'émeute, puisqu'elle l'a dit. Elle acceptera la décision et elle mettra au devant de la scène Jordan Bardella. Est-ce que ça vous dérange que ce soit la justice qui finalement fasse le casting de la présidentielle?
32-16 pour le dire au GG, Manuel.
Totalement, car c'est une dérogation au principe de la candidature présidentielle qui est assise sur l'obtention de 500 parrainages, qui est une condition très restrictive. Beaucoup de candidats ont du mal à récolter, certains échouent à avoir ces 500 parrainages. Il y a 42 000 élus qui peuvent parrainer seulement, 35 000 maires, 900 parlementaires, 80 députés européens, etc., des conseillers départementaux. En 2022, 32% de ces 42 000 parrains potentiels ont effectivement donné leur parrainage. Donc l'ostracisation judiciaire paraît à bien des titres totalement illégitime et extravagante et réprouvée. Les Français réprouvent cette décision de justice potentielle qui n'est pas normale, car je n'aime pas cette formule, car elle a un petit accent révolutionnaire incontrôlé, mais le souverain, c'est le peuple. Alors le RN dit quand le peuple vote, le peuple gagne. C'est encore plus populiste d'une certaine manière. Ceci étant, compte tenu de la première instance, avec un certain nombre de faits matériels démontrés, compte tenu du fait qu'en cas de décision favorable, le parquet peut même former un pourvoi en cour de cassation, même si, de mon point de vue, la peine va être sensiblement, voire notoirement allégée, je pense que la justice va trouver un biais pour ne pas rendre impossible cette candidature, mais que Marine Le Pen, dans la continuité de l'appréciation de cette décision, va d'elle-même considérer qu'elle ne peut pas se présenter, en conséquence de quoi elle devrait aller ce soir chez votre confrère Alain Olivier et rappeler le mot célèbre de François Ier après la débâcle de Pavie, oh. « Tout est perdu, fort l'honneur
bon, ».
Bah, cette loi de la probité qui fait que les juges peuvent déclarer les candidats inéligibles, elle existe dans une histoire française et dans un contexte. L'histoire française et le contexte, c'est qu'il y avait des politiques qui détournaient de l'argent public un peu partout. Et notamment, il y a eu l'affaire Cahuzac il y a un peu plus de 10 ans qui a ému les Français. Et à l'époque, il y avait des sondages qui montraient que 90% des Français voulaient beaucoup plus de probité dans la classe politique. Donc, ça vient pas de nulle part. Les juges, ils se sont pas octroyés un pouvoir de déclarer éligibles ou inéligibles les politiques. Non, les parlementaires ont débattu, les ministres ont fait des propositions, et puis on a voté, enfin, ils ont voté une loi qui dit que les juges peuvent, dans le cas où il y a eu du détournement d'argent public, déclarer une inéligibilité. Marine Le Pen, elle a détourné de l'argent public. Donc il faut juste revenir au point de départ de ce sujet. Marine Le Pen, elle a pris de l'argent européen pour payer ses affaires dans son parti politique, le Rassemblement National. Ça, c'est les faits. En tout cas, c'est les faits jugés par la première instance. Elle a fait appel, ce qui est son droit, et aujourd'hui, on va savoir si elle est condamnée ou pas, et surtout si elle est inéligible. Je pense que les politiques sont pas au-dessus des lois, et que grâce à cette loi, maintenant, les politiques se comportent beaucoup mieux, ils font beaucoup plus attention. Donc si on veut avoir un pays avec zéro corruption, bah il faut des lois fermes. Donc si on veut que les politiques fassent ce qu'ils veulent, sachant qu'aujourd'hui, un autre truc, on pourrait se dire, les citoyens, si Marine Le Pen elle est condamnée, ils vont juger tout seuls, ils vont se dire bah elle a été condamnée, on les lit pas président de la République.
Bah non, parce qu'elle pourra pas
se présenter. Mettons qu'il n'y avait pas d'inéligibilité dans la loi, que juste elle est condamnée pour avoir détourné de l'argent public. On se dirait, bon bah, les citoyens, ils vont faire leur choix en conscience, de manière éclairée, et ils vont pas voter pour elle. Sauf que, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus compliqué que ça, puisque les citoyens, ils voient pas ce que des journalistes bien informés qui vont leur faire de l'information, ils voient ce que leur algorithme décide qu'ils voient, donc ils peuvent ne pas... Mais c'est pas vrai. On prend les citoyens pour des gens qui ont des téléphones portables avec des réseaux sociaux. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, mon coiffeur, il m'explique que les deux personnalités préférées qu'il a, c'est Mathilde Panot et Jordan Bardella. Je lui dis, excuse-moi, c'est un peu bizarre, Mathilde Panot et Jordan Bardella, ils sont, y en a une qui est LFI et l'autre qui est RN. Tu peux pas aimer les deux, ça n'a aucun sens.
Souvent,
et
il me dit,
je vois que les deux sur mon téléphone.
Mais en t'écoutant, la seule solution serait qu'elle avoue comme Jubilard.
Zéro habitant.
Alors, concernant la probité de l'ensemble de la classe politique, en partant des élus locaux jusqu'au haut du sommet, franchement, personne a de leçons à donner à personne. C'est un palmarès incroyable en France. Non, il y a énormément de corruption en France. Je crois qu'on est on est 71e.
En politique. Non,
c'est fini ça.
Sérieusement, je pense que la France. Oui. Je pense que la France est quand même assez protégée à la corruption, même s'il y en a, rapport à beaucoup d'autres pays, au Paraguay et d'autres.
Évidemment qu'on ne va pas se comparer, mais n'empêche qu'on est loin de la probité exemplaire.
Est plus propre, on en trouve toujours plus propre.
Donc, après, concernant Marine Le Pen, de toute façon, le RN, sur qui on tape matin, midi et soir, quel que soit qu'on partage ses idées ou pas, il n'empêche que bon, c'est comme LFI, ce sont des partis qui ont autorisation à se présenter, à avoir des électeurs, à aller aux urnes, à ce qu'on vote pour eux, et ça, à partir du moment où ça c'est autorisé, chaque citoyen décide de faire ce qu'il veut.
C'est la justice qui va décider.
Donc si Marine Le Pen est condamnée et qu'en plus elle est inéligible, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire que le réel, il dit pas la même chose. Le ressenti et le réel, il est le suivant. il est qu'il y a plus de 10 millions de Français, voire plus, qui, eux, ont l'impression d'être méprisés, pas écoutés, que leurs problématiques ne sont jamais réglées, que ce soit Macron, Sarkozy ou Hollande avant, que de toute façon, la France est en décadence. Je dis pas que ça existe, je dis que le ressenti des Français est celui-là, qu'il y a un espèce de peuple totalement abandonné et qu'on n'a pas de réponse. On voit le débat sur la clim qu'il y a eu ces derniers temps où c'était le pugilat total entre les uns et les autres. Donc, priver les électeurs de Marine Le Pen, ils feront avec, hein, de toute façon. Hein. Ils ont de la ressource. Ceux qui partagent totalement les idées du Rassemblement National sauront voter pour Bardella sans aucun problème.
Oui, mais la peine d'inéligibilité, elle est dans le code pénal depuis plus de 30 ans.
Oui, et ben ils vont
l'appliquer.
Encore une
fois. Donc, soit on décide que le peuple est effectivement souverain et on sort l'inéligibilité du code pénal, on revoit la loi. Soit, si on la maintient dans la loi en disant, quand vous êtes responsable politique et que vous avez fauté, eh bien, en plus, vous n'êtes plus digne de vous présenter devant le peuple français. Mais oui. À ce moment-là, les juges ne font qu'appliquer, la loi.
Mais oui.
Donc c'est dur à l'ex, c'est de l'ex, d'accord.
Non,
mais c'est la loi.
Non, l'élection présidentielle.
Emmanuel, souvent tu dis qu'en tant que chef d'entreprise, tu as des devoirs et tu as un peu au-dessus des autres, tu as des devoirs d'exemplarité. Mmh. Un responsable politique, pareil. À partir du moment où il est, en plus à la tête du parti,
il en a aussi.
Et ben il en a aussi. Et donc dans ces cas-là, il y a l'inéligibilité qui est prévu.
Non,
par
je ne contredis
pénal.
Pas ce que tu viens de dire, à la réserve près, que c'est ensuite aux électeurs de décider, dans le cadre d'une candidature, s'ils sanctionnent ou pas.
Alors, dans ces cas-là, il ne faut pas laisser au juge la possibilité d'appliquer l'inéligibilité.
Bien sûr, mais bien sûr.
Elle est appliquée pour des élus locaux. Il y a plein d'élus locaux qui sont
mandatés. Elle doit s'appliquer à ce moment-là.
Oui, la différence, c'est vrai que c'est une nuance, c'est difficile à exprimer, mais l'élection présidentielle, outre le fait de rappeler que c'est la clé de voûte de nos institutions, etc., c'est la parole aux Français, uniquement.
Oui, mais c'est difficile de faire une exception du point de vue judiciaire et de dire parce que tu es maire, tu auras l'inéligibilité, parce que tu es président.
Oui, mais c'est une affaire qui concerne le Parlement européen, c'est même pas de l'argent franco-français.
Non,
etc.
Mais moi, ce que je trouve marrant, c'est que les personnes d'extrême droite deviennent les plus grands démocrates de ce pays en surface quand il s'agit de Marine Le Pen. Mais en fait, une élection, ça a toujours été encadré. Par exemple, un mineur n'a pas le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Une personne qui n'a pas ses 500 parrainages n'a pas le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Et je vais vous dire pire, une personne qui n'a pas les moyens de financer sa campagne, et ça, pour le coup, c'est vraiment très injuste, ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle, puisque une campagne, ça coûte beaucoup d'argent, ça
même
coûte des
si
millions,
c'est quand même
des
payé
millions et des millions
par
d'euros.
L'argent des Français.
Non, mais faut l'avancer.
Si on fait 5%.
Oui, d'accord.
Oui, mais
quand même
donc, en fait, les règles.
Si tu fais 2%, c'est
en fait, notre démocratie, ça veut pas dire tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, ça veut dire qu'il y a des règles, et dans le cadre de ces règles, on peut être candidat, c'est tout.
Oui, mais dans la démocratie, qui est souverain? Qui a le dernier mot? Le juge ou le peuple souverain? Voilà. Le juge n'est là qu'au nom du peuple.
Oui, d'accord, mais une fois de plus, après, c'est dans le code pénal. Donc, si les responsables politiques disent ce n'est pas au juge de décider de l'inéligibilité, enfin, ce n'est pas au juge de décider qui doit se présenter ou pas, on sort l'inéligibilité pénal. Toutes ces lois, elles ont été faites par les représentants du peuple français. Hein.
Le fond du dossier n'est pas un crime de sang, c'est quand même un truc un petit peu ténu, subtil.
Bah voler l'argent,
c'est 90 millions d'euros.
Tu passes toutes les émissions à dire que les caisses sont vides. Bah peut-être que voler l'argent des Français, c'est un crime. Ouais.
Jordan, non, bonjour.
C'est l'argent de l'Europe qui sert à rien.
Oui, mais
bonjour,
qui le paye,
Jordan,
l'argent de l'Europe?
Jordan est dans les Hauts-de-Seine, il est cadre. Qu'est-ce que vous en dites, Jordan? Alors justement, est-ce que c'est au juge de faire l'élection présidentielle aujourd'hui?
Peu importe, il y a deux ans, mais au fond, ça ne change absolument rien, que ce soit Le Pen ou Bardella. Le RN est déjà préparé. Et puis, les électeurs RN ont une capacité de dispersion de vote qui est très, très faible. Donc, peu importe le candidat, ils ne sont pas adhésion à idées qui sont aussi farfelues que possible, mais c'est pas grave. RN dit une catégorie sociale qui peut se sentir déclassée à juste titre. Et il propose des réponses simples et simplistes à un public qui n'a pas des compétences économiques suffisantes pour comprendre l'absurdité des propos. C'est tout. Le but, c'est juste de déresponsabiliser les gens et pouvoir assumer un modèle social qui est toujours infinançable en trouvant des boucs émissaires, l'Europe, les étrangers, ce que vous voulez. Donc ça ne change rien. Même si Bardella se ramasse en duel, ça ne changera rien. Ils continueront de voter, donc ça ne change absolument rien.
Et vous pensez que, Jordan, vous pensez que Bardella et Le Pen, c'est exactement la même chose? Moi, j'ai du mal. Je pense que c'est deux personnalités différentes.
Oui,
c'est pas les mêmes parcours.
Là, dans les sondages, en fait, on dit que c'est la même chose parce qu'ils font à peu près le même résultat dans les sondages, mais en campagne, après, on rentre dans le choix d'une personnalité. Une élection présidentielle, c'est très personnalisé.
Oui. Et la grosse différence, c'est que Bardella est susceptible de mettre de l'eau dans le vin du programme socialiste de Madame Le Pen, économiquement. Ouais. Et là, il est en situation d'être élu.
Mais je dirais que sa force aussi, c'est qu'il ne s'appelle pas Le Pen.
Les électeurs RN aiment le socialisme, hein. Ils aiment la citadinat sociale, ils aiment tout ça, juste pour les Français.
Oui, mais vous voyez, Jordan, je pense qu'il y a deux RN, en fait. Et c'est peut-être ça qui va être compliqué à concilier. C'est-à-dire, vous avez peut-être le RN de Marine Le Pen. Oui, le RN du Nord, qui sont les gens un peu déclassés, désindustrialisés, voyez, et qui tiennent à l'État. Et puis vous avez peut-être le RN du Sud, qui est un peu plus bourgeois, qui tient à ses économies, qui veut moins d'impôts. Et il va falloir concilier ces deux rassemblements nationaux.
Oui, là, c'est pas Zemmour. Je pense que peut-être Snar, faut pas voter Le Pen ou Bardella.
Oui. Bon. Oui. Moi, je pense que le RN dit social de Madame Le Pen ne lâchera pas Bardella.
Sauf qu'il y a.
Moi, je dirais que
ils le lâcheront pas. C'est vrai, vous avez raison, ils le lâcheront pas. Donc ça va rester.
Sauf que c'est Jordan. Après, une fois qu'on a fait la petite distinction économique, ces deux RN, ils ont deux points communs, qui est l'insécurité et marre de l'immigration.
Et je dirais
c'est là-dessus aussi que ça joue.
Troisième, marre du système. Je pense quand même que tu as ça aussi, quand tu votes des RN, tu as envie de dire de renverser la table, quoi, en fait, de dire.
Allez-y, Jordan. Pardon.
Avec le fait qu'on on les a pas essayés.
On est quand même conscient que le sujet d'immigration, qu'il faut pas les, c'est une conséquence de notre modèle social et économique.
Oui, vous voulez dire que c'est-à-dire du toujours moins cher, toujours à moindre coût, etc. Quoi, c'est ça. Jordan, pardon, on a un souci avec la ligne pour pouvoir vous écouter. Alors, est-ce qu'effectivement Jordan Bardella et Marine Le Pen, c'est la même chose?
Non, mais non.
Tu vois, c'est-à-dire que en fait, ce qui motive les électeurs du RN, c'est l'idée de renverser le système, de passer à autre chose, et que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen,
ça serait
plus fort.
C'est le même principe que les électeurs de Mélenchon. C'est mettre fin à un système qui, pour eux, déclare que finalement il a été usé jusqu'à la corde, puisque Sarkozy a renoncé à pas mal de choses de la droite sociale, Hollande a rien fait. Et Macron, c'est en même temps en permanence, donc c'est déroutant.
Oui, bah le RN aussi. D'ailleurs, Édouard Philippe l'a assez justement dénoncé, même s'il n'était pas la personne la mieux placée pour le faire, mais il a dénoncé le en même temps RN. Il y a en même temps dans le RN, parce que à la fois ils veulent effectivement réduire la dette, s'attaquer aux finances publiques, et en même temps ils sont pour la retraite à 60 ans, 62 ans.
Mais oui, mais en même temps.
Voilà.
Et des services publics.
Les Français sont comme ça. Moi, je pense les Français sont dans ce même temps. C'est à la fois. On trouve qu'on dépense trop, et on va en parler tout à l'heure dans un sondage, les Français très majoritairement disent que la sécu coûte trop cher. Oui. Et en même temps, ces mêmes Français, si tu leur dis on va moins rembourser les médicaments, on va moins vous aider sur ça, etc., ils sont les premiers à râler.
Alors, on a posé la question, la justice qui va décider du sort de l'élection présidentielle, est-ce que ça vous choque ou pas? Vous dites oui à 75, quasiment 76%. 10h-20, dans un instant, le 11 s'en fout, on s'en fout pas. Restez avec les grandes gueules, Florent Guébali, Zora Bitton, Emmanuel Devilliers. Vous êtes sur RMC, c'est la radio. RMC Story, c'est la télé.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, Flora Guébali, Zora Bitton, Emmanuel Devilliers, chef d'entreprise et intervenante associative militante écologie. Voilà nos trois GG qui vous accompagnent en direct jusqu'à midi. Vous prenez la parole au 32-16 tout à l'heure à partir de 10h. On va regarder effectivement ces conducteurs. Un conducteur sur cinq jette encore ses mégots par la fenêtre de la voiture. D'où les incendies aussi que l'on a. Est-ce qu'il faut je sais bien que c'est une interdiction, mais est-ce qu'il faut interdire la cigarette au volant?
Enfin, pour remettre des cendriers dans la voiture.
Remettre des cendriers dans les bagnoles. Enfin bon, vous venez en parler tout à l'heure avec
nous. Des allumes-cigares.
À partir de 10h. En attendant, c'est long, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Avec Anaïs Inès Sainz. Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Un petit bonjour à mes petites nièces qui sont devant la télé. Elles sont toutes petites. Mao et Pia, 4 ans et 7 ans. Je les embrasse. Regarde. Coucou les petits choux.
Et vous arrivez, est-ce que, dites donc, Mao et Pia, vous arrivez à la supporter, votre tata Anaïs,
Bon,
nous,
les
GG. On n'en peut plus.
Le restaurant, tiens, on reparle de Master Poulet, tiens. Un des restaurants Master Poulet, celui d'Aubervilliers, en région parisienne, a été fermé hein, par la préfecture après des manquements graves aux règles d'hygiène. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Zora ?
Non, on s'en fout pas.
Emmanuel ?
Il faut être économe de ces indignations, je m'en fous.
Ah, ma petite chère Flora ?
On s'en fout pas.
Nouvelle fermeture administrative donc après celle d'Argenteuil. Selon le journal Le Parisien, les autorités évoquent notamment un nettoyage des locaux et une lutte contre les nuisibles très insuffisant. Une absence d'hygiène manuelle également, y compris à la sortie des toilettes, ce qui engendre un risque majeur d'intoxication alimentaire, notamment par la présence de bactéries. Ah, ça. Et ce n'est pas tout. Le compte-rendu du contrôle pointe aussi une absence de traçabilité des aliments. Flora.
Karim Bouamrane, quand il a tenté de fermer Master Poulet à Saint-Ouen, son argument, c'était de dire que tout le monde a le droit au beau et au bon. Et je pense que c'est, il avait vraiment raison sur le fond, sur ce sujet. Et que quand LFI arrive et défend vent debout Master Poulet parce que tout le monde a le droit à son kebab, je trouve que c'est LFI qui fait beaucoup de mépris de classe, en fait, et qui veut ghettoiser la société en disant, bah, vous, vous êtes des gens des cités, donc vous allez manger du poulet frit, qui, pas toujours frit, pardon, Master Poulet, pour être exact, mais vous allez manger du poulet qui respecte pas les normes sanitaires convenables et qui vient de Pologne et qui est bourré d'antibio, qui va certainement vous filer un cancer un jour parce que c'est ça le sujet. Et puis en plus, évidemment, vous respectez pas les normes environnementales. Et par contre, les gens qui ont plus de moyens, ils vont manger des choses qui sont bonnes pour leur santé. Ils vont pas tomber malades. Et je pense que ça, c'est le cœur du sujet politique du moment. Pourquoi les riches ont le droit de bien manger ? On voit à quel point. Étude après étude, on voit à quel point l'alimentation a un impact sur la santé. Donc en gros, les riches vont être en bonne santé parce qu'ils vont manger bio, et les pauvres vont tomber malades parce qu'ils vont manger des trucs pourris. Et ça, c'est le programme politique de LFI.
Zora ?
Moi, j'adore parce que en fait, il y a trois gauches. Il y a la gauche d'avant, il y a la gauche LFI, et la gauche d'avant qui est nouvelle. Mais en fait, ça fait 40 ans qu'il y a le mépris de classe. Et ça fait 40 ans qu'on a ghettoisé ces endroits. Et ça fait 40 ans qu'on accepte... que les gens ont des dispositifs publics spécifiques, des restaurants spécifiques, des boucheries spécifiques, et dans énormément de villes socialistes aussi. Et d'un seul coup, comme LFI est extrême, eh ben il y a une gauche démocrate, sociale et républicaine qui s'est réveillée un peu tardivement. Et donc c'est dommage.
Mais est-ce que c'est la gauche du pouvoir d'achat ? Parce que moi je veux bien ces grands discours sur la gauche, mais pourquoi les gens vont chez Master Poulet ? Parce que c'est pas cher. Oui. Ouais, autour de moi tous les jeunes, d'ailleurs que ce soit pas forcément des pauvres, vont chez Master Poulet parce que tu manges pas cher, etc. Et peut-être que moi si j'avais 20 ans, j'irais manger chez Master Poulet.
Sauf que
donc on n'est pas dans des grands débats sur la gauche, etc.
Moi j'ai un fils à l'adolescence.
Tu peux faire du Master Poulet pas cher, mais dans des bonnes conditions.
Et bien sûr.
Voilà. C'est juste ce qui est
reproché. Mais tu feras pas du Master Poulet pas cher en prenant du poulet français élevé en plein air, bio,
des locaux,
avec
là,
toutes les normes qu'on impose, etc.
Moi, je me souviens, à l'adolescence, mon fils était allé manger dans un kebab, il a fini aux urgences avec une intoxication grave.
Oui, mais en fait,
à un moment donné, il y a l'hygiène, la sécurité. Après, il faut quand même apprendre aux gens à manger de qualité, même si parfois c'est un peu plus cher. Parce que là, le poulet, c'est extrêmement grave d'où il vient.
C'est pas mauvais.
Non, mais là, c'est
le goût.
Là, c'est vraiment ce dont on parle, c'est l'hygiène dans le restaurant.
Oui,
c'est pour ça qu'il a été fermé. Et ça fait deux ou trois fois que ça se reproduit dans les Master Poulet.
Les GG, François Hollande devant Jean-Luc Mélenchon dans un sondage. Est-ce qu'on s'en fout pas, Flora ?
On s'en fout pas.
Emmanuel ?
Non plus.
Zora ?
On s'en fout pas.
Sondage Elab pour les échos sur les personnalités politiques bénéficiant de la meilleure image. Et auprès des électeurs de gauche, l'ancien président socialiste devance donc désormais Jean-Luc Mélenchon au recul de 8 points. Ce qui place François Hollande donc en tête à gauche. Ma chère Flora.
Je pense que François Hollande, faut pas l'enterrer trop vite et que ça va être la valeur refuge de cette élection.
C'est ton rêve
parce
de le revoir
que face
au pouvoir.
Alors j'ai dit ça un jour et effectivement ça me dérangerait pas du tout. Je pense que face au chaos du monde, en fait c'est simple. Voter Mélenchon, voter Bardella ou Marine Le Pen, c'est voter Poutine. Ok, faut juste comprendre de quoi on parle. Il y a un camp pro-russe et il y a un camp. Non mais en fait non c'est pas binaire, c'est la vérité.
Très nuancé.
Donc en fait, si on veut garder l'Occident tel qu'on l'a connu devenu les valeurs occidentales, la démocratie, l'universalisme, la liberté. Il nous faut une personne qui est droite dans ses bottes. Et parmi les personnes droites dans ses bottes, il y a François Hollande qui en plus a un programme social. Donc moi, voilà, c'est tout. Quand je dis que c'est mon rêve, c'est ça que je veux dire.
Faut préciser c'est des sondages d'image, pas des sondages d'intention de vote.
Exactement.
Ça ne veut rien dire, ces sondages d'image. Bah, sinon, Simone Veil aurait été présidente, Bernard Kouchner aurait été président, Jack Lang aurait été aussi président. Ces sondages d'image, en plus, Hollande, le jour où il se déclarera candidat, tu verras qu'il dégringolera dans ce
sondage. Emmanuel.
Bon, c'est un retour éphémère et superficiel, car ce qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe dans les tréfonds électoraux, dans les grandes profondeurs. Et dans les grandes profondeurs, il subsiste une mer, non pas de plastique, mais de bashing de François Hollande, et son retour est impossible.
Zora, ça raconte le désespoir et du Parti Socialiste. C'est-à-dire que, en fait, Olivier Faure, il est à 0,1. Et donc, il en reste que le petit bonhomme Hollande, qui est plutôt au demeurant peut-être sympa humainement, et point barre. C'est tout. Et parce que Hollande, c'est le dernier des socialistes qui incarne l'histoire, Strauss-Kahn, Jospin, des grandes figures du socialisme qui n'existent plus du tout. On a aujourd'hui que des socialistes aux petits pieds, qui un jour vont avec LFI, le lendemain racontent le contraire de ce qu'ils
font. Là, il est soi-disant voté la censure, et puis finalement, il a été désavoué.
Les socialistes vont chercher Hollande, ça raconte où ils sont les socialistes aujourd'hui. Voilà.
Bon, les GG, encore un sondage, tiens. Très sérieux, celui-ci aussi. Enquête IFOP qui révèle que le lieu de travail demeure le premier théâtre des attirances interdites. 46% des jeunes actifs reconnaissent avoir déjà été attirés sexuellement par un ou une collègue et 18% par leur supérieur hiérarchique. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora ?
Je m'en fous, je vous laisse la parole.
Ça n'arrive pas dans les rangs. Je ne vais pas sur ces terrains impudiques, chère Anaïs, je m'en fous.
Alors attendez,
non, mais c'est surtout drôle.
Donc, cette attirance au bureau reste avant tout une affaire d'hommes, tiens. 56% des hommes de moins de 30 ans admettent avoir déjà fantasmé sur une collègue, contre 35% des jeunes femmes.
Les femmes sont hypocrites, elles doivent
pas
dire.
C'est drôle. Tu rigoles. Ça s'appelle se relier. Avant les réseaux sociaux, il y a le lieu de travail où tu rencontres des gens, où tu crées des affinités.
Bah oui.
Il n'y a rien de plus humain.
À part Anaïs, beaucoup de gens rencontrent leur compagne au boulot.
C'est la vie, le lieu de vacances, le lieu de travail. Il n'y a rien d'extraordinaire. Les infidélités se commencent.
Oui, mais là c'est des attirances.
On aurait révélé les exploits d'Anaïs, mais il y a ses nièces qui regardent.
Ah ouais, c'est ça.
Oui.
Donc moi, je trouve ça drôle, mais en même temps, c'est révélateur. Par contre, quand on dit 50% des hommes, moi je dirais c'est 50-50.
Les
femmes aussi, parce que
mais dans les grandes gueules, ça n'a pas fonctionné. Il y a pas eu de couple.
GG, non.
Parce que
en 22 ans de grande gueule,
ou alors il s'est passé des choses, mais on ne le sait pas.
Une autre grande gueule, c'est après le foyer devient.
Oui, c'est pas faux non plus. C'est vrai.
Il faut y veiller. En tant que chef d'entreprise, tu faisais attention aux relations.
Il y a beaucoup d'histoires, effectivement.
Voilà, c'est pour ça qu'il a dit je passe mon tour.
Dans une des sociétés que j'ai repris, j'ai découvert un secret que mon prédécesseur qui m'avait vendu la société, qui était un type tout à fait affable, avait eu un enfant avec une salariée.
Être
attiré par ses managers, apparemment, là,
on n'a plus le droit maintenant.
Le pouvoir. Mais en politique, c'est pareil. Tu peux le rajouter en politique. En politique, c'est même encore pire. Tu peux rajouter le level, tu vois. Bien sûr.
Des exemples.
Oui.
Moi, j'ai fait 20 ans de PS. Je peux te dire que les couples et les infidélités, c'était tout le temps, partout. Elle, c'est la maîtresse de machin, lui, il est avec elle. Enfin bon, c'est courant, quoi.
Dans le coffre d'une entreprise, un associé qui avait mis des papiers personnels. Alors un jour, j'avais regardé.
Il y avait des photos.
Je tombe sur un papier qui était adressé à son épouse. Si tu veux divorcer, fais-le proprement.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, on attaque la deuxième heure des grandes gueules. On s'intéressera à ce jeune homme qui nous avait interpellé ici à la sortie d'Eloquent en disant j'ai envoyé 300 CV, je cherche un stage dans la finance. Et je ne l'ai pas trouvé. De la difficulté de trouver un stage quand on est étudiant, on en parlera à 11h-20. 10h20, la sécurité sociale. Les Français trouvent qu'elle coûte trop cher, qu'elle est mal gérée. Là encore, vous n'en discutez au 32-16, mais d'abord les incendies. Un conducteur sur 5 jette encore ses mégots par la fenêtre de sa voiture. Du coup, on va quand même pas aller jusqu'à interdire la cigarette au volant, non ? Allez, c'est au 32-16 que vous venez en parler avec les GG, avec les grandes gueules, Flora Guebali, Zora Bitant et Emmanuel Devilliers.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.